vous êtes sur Frequenza Nostra 99 FM. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette journée continue à bien se passer pour vous. On espère qu'elle se passe bien, en tout cas. Alors, nous avons du monde dans ce studio. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Annie Hernandez. Annie Hernandez est médiatrice familiale au sein de la FALEP. Alors, elle n'est pas venue toute seule, mais je la laisserai présenter ses invités. Et Annie va nous expliquer ce qu'est la médiation familiale. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, avez eu recours ou pas à la médiation familiale, si vous savez déjà ce qu'est la médiation familiale. Mais moi, je vous pose la question à Annie. Déjà, bonjour Annie.
Bonjour.
Bienvenue sur cette antenne, c'est un plaisir.
Merci à vous.
Alors, cette médiation familiale, qu'est-ce donc ?
Alors, la médiation familiale, par définition, il y a une très belle définition de la FENAMEF, hein, des Fédérations Nationales des Médiations. C'est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l'autonomie des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation, dans lequel le tiers impartial, hein, qui est le médiateur, favorisera, au moyen de l'organisation d'entretiens confidentiels, leur communication et la gestion de leurs conflits dans le domaine familial entendu et dans sa diversité. La médiation... Alors, je vais d'abord... Je suis partie trop vite. Je voudrais présenter mes invités parce qu'il est important que vous puissiez les entendre. Vous avez... une jeune maman qui a sollicité la médiation il y a quelque temps, que j'appellerai Dominique, hein, pour des raisons d'anonymat, donc qui vous parlera de son parcours. Et elle partagera également son histoire. Hein. Elle aura un message probablement à apporter et à vous partager. J'ai aussi... Maître Casanova Francine, qui est avocate et médiatrice, qui vous parlera de son parcours. Voilà.
Bien, du joli monde. Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Donc, on était parti sur cette définition. Alors, c'est compliqué aussi de donner une définition vraiment, j'ai envie de dire, vulgarisée, peut-être.
Oui, je peux vous donner une définition... vulgariser.
C'est entre guillemets. Hein.
La médiation, l'objectif de la médiation est d'inviter la famille ou les deux parties à s'exprimer, à se dire, à raconter leur histoire qui, au départ, est très conflictuelle, où il y a difficulté à communiquer. Donc c'est très important pour les parties. Moi, je dis les parties, ça peut être... Alors la médiation... Elle s'adresse, hein, on peut aussi parler de ça. La médiation s'adresse à toute la famille dans son évolution et sa diversité. Hein. J'appelle aussi, ce sont des parents qui peuvent venir, soit ils peuvent être soit déjà séparés ou en voie de séparation ou rupture. Hein. Vous avez aussi les médiations intergénérationnelles. Alors, intergénérationnel, c'est plus en lien avec des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants. C'est aussi important. Vous avez aussi ce que moi j'appelle les personnes âgées, c'est-à-dire un membre de la famille âgée qui est dépendant, hein, ce qu'on appelle les aînés dépendants, hein, nos seniors qui quelquefois nous posent soucis. Parce qu'on ne sait pas si, effectivement, on va les mettre dans un EHPAD. Où ça, c'est compliqué aussi à gérer. Hein. On ne peut pas non plus juger la famille, hein, les enfants qui ne peuvent pas faire autrement que de placer son parent en EHPAD. Donc, effectivement... Hein, au mieux, on peut les laisser dans leur lieu de vie. C'est important aussi, si c'est possible. Il y a aussi le maintien des liens. Hein. Souvent, nous avons des parents dont un qui ne voit plus son enfant, Donc c'est compliqué aussi dans la mesure où, c'est pas souvent, mais quelquefois, il est important aussi de comprendre la situation. Alors ce joue, ce sera peut-être notre thème prochainement, au cours du mois de juin, où nous parlerons de l'enfant, hein, de l'enfant face à ses parents séparés et la souffrance que ça peut générer aussi. Hein. Ça peut être douloureux pour cet enfant. Donc ça sera un sujet que nous débattrons un petit peu plus tard. Au niveau donc, des prestations donc, proposées, j'ai parlé de la séparation, des divorces, donc des maintien des liens familiaux. Hein. Ça, j'en ai parlé. Les objectifs de la médiation, c'est soutenir aussi les familles dans leur rôle éducatif. C'est important aussi de maintenir le lien. Donc, le public concerné, je l'ai déjà dit, c'est la famille dans sa diversité, son évolution, hein, quel que soit. Ça peut être aussi des cousins, cousines, tantes, oncles, grands-parents, parents. Alors, comment se déroule une médiation ? La médiation, dans un premier temps... alors, il y a deux sortes de médiation. La médiation conventionnelle, que moi j'appelle spontanée, parce que c'est un parent qui sollicite la médiation et charge soit à moi de solliciter l'autre parent par mail ou par courrier, de l'inviter. Hein, il n'y a aucune obligation de venir en médiation, aucune. Et la médiation, ça c'est la médiation spontanée, et la médiation ordonnée par le juge aux affaires familiales qui n'est pas aussi, il n'y a pas d'injonction hein, sur cette, pas d'obligation. C'est au moment de l'audience, le juge aux affaires familiales demande aux parties s'ils sont d'accord pour intégrer un processus de médiation familiale. Voilà. La médiation ordonnée n'est pas, comment dire, voilà, il n'y a aucune obligation. Les séances. La durée de la médiation peut durer de 1h30 à 2h, pas plus. Il est important de ne pas aller au-delà, parce que ça peut être aussi difficile et déstabilisant aussi. Hein, ce moment-là avec les gens, c'est difficile, ça peut être déstabilisant et douloureux hein, aussi. Bon, moi, je fais en sorte que les personnes... qui termine la médiation, du moins la rencontre, soit bien. Il m'est arrivé de rester avec des parents parce que c'était très difficile et douloureux pour eux. Donc voilà, je veille à la bienveillance, je suis bienveillante, bien entendu, avec les gens et je veille à ce qu'ils soient bien en repartant.
Pas de jugement, pardon, du
pas
coup,
du tout.
Voilà, aucun jugement, c'est important.
Voilà, on est dans l'impartialité, on est dans l'empathie, et certainement pas dans le jugement, et ni dans... on ne prend pas de décision à la place des personnes, c'est très important. C'est eux qui vont raconter, c'est eux qui vont gérer leur avenir, je dirais, cette nouvelle... comment je pourrais dire ça, organisation parentale.
Alors, ça veut dire que du coup, le médiateur ou la médiatrice familiale, bon, intervient, le terme le dit, hein, c'est un médiateur ou une médiatrice. Vous allez faire comment ? Vous allez suggérer ? Vous allez conseiller ? Ou pas du tout ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Dominique, racontera aussi son histoire, puisque nous avons eu une médiation en visio aussi, hein, parce qu'il est... Tout est possible en médiation. Ça peut être du présentiel, ça peut être de la visio, ça peut être par conversation téléphonique avec le haut-parleur. Hein. Il y a des parents qui ne veulent pas voir ni rencontrer l'autre parent.
Ça existe. Donc vous êtes aussi... Excusez-moi, vous êtes l'intermédiaire, en fait, le relais.
Le tiers neutre.
Voilà,
c'est ça, neutre.
C'est important aussi,
oui.
Ça, cette neutralité.
La neutralité, elle est importante, mais il y a des événements, des histoires qui peuvent nous traverser. Hein, et on, on se doit d'être impartial, neutre et d'être dans le non-jugement pour que les parents puissent avoir cette confiance et puissent pouvoir parler en toute quiétude.
Il y a un processus aussi, il faut suivre un processus.
Oui, Francine Casanova, merci.
On les fait cheminer, en fait, pour renouer le dialogue et mieux s'exprimer. C'est tout un processus à suivre, c'est un processus quand même qui nécessite pas mal d'heures de formation, hein, parce qu'il faut compter à peu près 600 heures de formation pour être médiateur familial. Et tout ça, ça permet aux gens qui étaient en rupture de communication de pouvoir rétablir ce lien et communiquer à nouveau de façon sereine. Et à partir du moment où on arrive à communiquer de façon sereine, on peut, le dialogue s'effectue et là, on voit les besoins de chacun et on se dit, peut-être qu'on peut faire certaines concessions. Vous voyez, on arrive à trouver un accord. C'est bien ça, Annie ?
Oui. Alors, l'accord peut être écrit sur une ce que nous, on appelle convention parentale, qui peut être, cet accord peut être homologué par le juge aux affaires familiales si les parents décident. C'est à eux, ça leur appartient. C'est un moment qui leur est propre. Nous sommes là pour faciliter la parole et pour accompagner ces personnes-là. Mais à aucun moment, on ne prend pas leur place ni on décide à leur place. Ce qui est important, c'est ce moment-là est à eux. Et je dis toujours aux parents, soyez bienveillants avec votre enfant. Parce que lorsqu'il y a un conflit et lorsqu'un parent attaque l'autre parent, on attaque l'enfant. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont des études, des recherches, mais c'est vrai.
Ça s'est vérifié.
Parce que vous avez, dans le milieu scolaire, l'enfant, on utilise l'enfant aussi. Alors, exemple, oui, tu diras à ton père ou tu diras à ta mère qu'elle lave le linge parce que tu arrives le dimanche soir, le linge est sale, ou tu demanderas à ton père ou à ta mère, hein, peu importe, qu'il te fasse ou qu'elle te fasse faire les devoirs. Je donne un exemple qui est fréquent aussi, hein, et je donne un faux nom, hein, pas grave. Hein. Oui, Antoine voudrait des crampons pour ses chaussures de foot, et le père répond, ou la mère, oui, mais je te donne une pension alimentaire, alors que la pension alimentaire, si Francine en parlera peut-être, hein, elle ne couvre pas grand-chose. On le sait bien, c'est la pension alimentaire qui aujourd'hui s'appelle la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ne couvre pas réellement les besoins de l'enfant dans sa totalité.
Donc là, c'est votre rôle, vous en tant que médiatrice, de renouer le dialogue pour arriver en fait à trouver une solution au mieux pour la famille en fait.
Et pour protéger l'enfant aussi, parce que quand il y a rupture de dialogue entre les parents, il y a aussi l'enfant messager. On se sert de l'enfant, comme a dit Annie, pour transporter le message. Et l'enfant, il est pris au milieu de ce conflit. Il est gêné parce qu'il est loyal, il aime son papa, il aime sa maman. Et il est capable de jouer un jeu différent avec chaque parent. Et ça, il faut absolument protéger les enfants dans les ruptures. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rétablir le lien.
Alors, j'aimerais rajouter, c'est important ce que tu dis. Il y a l'enfant messager et l'enfant qu'on appelle dans notre jargon prothétique. C'est-à-dire, c'est encore pire, ça veut dire qu'on peut dire à son enfant, si tu n'as pas envie d'aller chez papa, t'es pas obligé. Alors que bon, il y a quand même s'il y a un jugement, il y a quand même, l'enfant doit maintenir le lien avec l'autre parent, c'est important pour lui. Et peut s'installer un conflit de loyauté. Comme dit Francine, il ne veut pas faire de peine à sa maman, il ne veut pas faire de peine à son papa, et il va dire à sa maman, « Ok, maman, je reste avec toi », même si sa maman dit, « Oui, mais bon, tu dois aller voir ton papa. L'enfant peut refuser s'il le sent, parce qu'il n'y a pas besoin de dire les choses, hein, y a un ressenti aussi. L'enfant peut dire, « Ben non, maman, j'ai envie de rester avec toi ».
Parce qu'il sent la maman malheureuse. Ce sont des éponges émotionnelles, les enfants.
Alors, on parle d'enfants et on écoutera le témoignage de Dominique, mais vous le disiez, Annie, il y a aussi, ça peut concerner d'autres membres de la famille. On parlait des seniors, les parents, les grands-parents, quelqu'un qu'on va isoler, quelqu'un ou alors qu'on va les placer ou pas. Il peut y avoir, j'imagine, dans une fratrie, on n'est pas d'accord sur le devenir de l'ancien, de la personne âgée à qui veut... placer la personne, par exemple, en EHPAD, à qui veut la garder, la maintenir à domicile. Généralement, personne ne veut la prendre à la maison. Ça, c'est une chose aussi, ou ne peut. Là aussi, vous intervenez dans ces...
Oui,
dans...
C'est aussi compliqué. C'est pour ça que je vous disais en amont, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger les enfants parce qu'effectivement... leurs parents est vieillissant. Si ce parent-là est très dépendant, il y a la dépendance, c'est-à-dire alité, ne pas être autonome, c'est compliqué. Moi, je vais partager un petit bout de ma vie, mais brièvement, où mon père est resté à la maison. J'ai mis tout en place pour qu'il soit avec mon frère et ma sœur, bien évidemment. On venait tous les jours, lui apporter ce dont il avait besoin. Il y avait l'infirmier, le matin, soir, un kiné, il y avait tout. Nous l'avons mis, parce que je n'ai pas été seule dans cette histoire. Il est décédé aujourd'hui. Nous l'avons mis dans une zone de confort. Mais c'est compliqué. Nous, ça a été plus simple, mais j'ai pu, par téléphone... des gens qui habitaient dans un village, pas très loin d'ici, qui étaient embêtés parce que c'était leur maman qui était à la maison, une maison de village, mais jour et nuit. Donc c'est compliqué. Un membre de la famille ne souhaitait pas faire la nuit, quoi. Ça a été très compliqué. Bon. Et en discutant, on a réussi à trouver une solution. C'est pas moi qui l'ai trouvé la solution, encore une fois, on donne pas de solution. Mais en posant des questions, justement, telles que de quoi auriez-vous besoin, qu'est-ce qu'il vous faudrait, etc. Ce type de questions qui amènent des réponses. Voilà.
Très bien, ben merci déjà. Ça nous donne un petit éclairage, effectivement, même un gros éclairage sur ce qu'est la médiation familiale. On peut imaginer que c'est bien plus complexe, ça va encore au-delà. On verra ça au fil de cette émission et peut-être au fil des émissions à venir. J'aimerais, si elle est d'accord, entendre la voix de Dominique. Dominique, vous avez eu recours à la médiation familiale. Comment vous êtes arrivée à la médiation, oui. À devoir...
Tout à fait. Ce qu'on n'a pas dit dès le départ, on a dit qu'il y a une rupture de communication parce qu'en fait, il y a une histoire de couple à la base et une histoire de couple qui ne se passe plus correctement, où justement, il y a une rupture de communication entre le couple et en fait, un enfant qui est là... est un sujet supplémentaire à ce conflit. Nous, avec le papa de ma fille, on s'est retrouvés en thérapie comme un accord pour essayer de trouver une sortie. Cette thérapie n'a pas, on va dire...
Fonctionné.
Et c'est la thérapeute elle-même qui nous a dirigés vers une médiation. Ce n'était pas du tout quelque chose que l'on connaissait, parce que très vite, on se fait une idée en se disant « il faut passer devant un juge, il faut prendre un avocat ». On n'a pas du tout idée qu'une médiation est possible. Et ce qu'on a apprécié, en fait, c'est que ça a créé un terrain neutre, un cadre. On est venu voir une médiatrice. Enfin, on a commencé la médiation sur le continent. Et donc, un cadre était là pour nous permettre de parler au sujet de notre enfant. Et ensuite, j'ai dû déménager et je suis venue en Corse rejoindre de la famille. Et on a continué cette médiation avec Madame Hernandez par visio, ce qui a permis de construire encore ce projet et de prendre aussi du recul sur notre vie de couple, puisque le cœur du sujet dans la médiation était l'enfant. Donc voilà, comme disait Madame Hernandez tout à l'heure, ça permet de construire un projet. La médiation est vraiment là pour nous outiller sur cette démarche, sur une démarche, voilà, parce que c'est très inconnu pour nous. Et on nous outille à construire un projet de garde, à savoir, est-ce qu'un des deux parents prend une garde, entre guillemets, exclusive, avec des droits de visite pour l'autre, ou est-ce qu'il y a, il y a une garde alternée. Des sujets sont mis sur la table, et ça nous permet de nous poser des questions, comme disait...
Maître Casanova.
Oui, Maître Casanova. Ça nous permet aussi de cheminer parce que tout ne se fait pas en une fois. On a plusieurs rendez-vous sur quelques semaines. Ça peut être plus ou moins long. Mais chaque parent, après, de son côté, chemine parce que quand on arrive avec une histoire de couple, il y a forcément l'ego qui est touché. Il y a l'émotionnel. C'est lourd. Et il faut qu'on trouve... une sortie, mais surtout protéger l'enfant. Comme elles ont dit, ça, c'était le plus important pour nous, c'était protéger l'enfant et ne pas s'en servir. En fait, la médiation, pour moi, ça a été une boussole. On est dans une tempête de couple, encore une fois, et c'est une boussole pour faire au mieux pour son enfant, pour être le plus rationnel possible.
Pour son enfant, et j'imagine aussi pour soi-même.
Oui.
Hein, on a besoin aussi de se retrouver, justement, au milieu de cette tempête de couple. J'imagine qu'on a besoin de se retrouver, de retrouver, là, en l'occurrence, le rôle de maman et le papa, le rôle de papa. Mm-hmm. Ça doit être aussi cette recherche-là, Annie.
Oui, ben c'est pour... je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Dominique. Elle dit que c'est une boussole. Moi, j'ai envie de dire... ben, c'est pour aller vers, cheminer vers le cap de bonne espérance. C'est un jeu de mots. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée de la boussole parce que les parents sont perdus aussi. À un moment donné, enfin, perdus. Le conflit est tellement englué. Il y a plus cette possibilité de s'extraire, de prendre ce recul-là. Et en médiation, effectivement, j'ai envie de dire, on pose ses valises. Chargé de tension, chargé de colère, chargé de ras-le-bol aussi, hein, on va le dire comme ça.
Et d'ego, hein, Dominique le disait, d'ego aussi, c'est important.
Et voilà, on pose tout ça. Et ce qui est important, effectivement, on va protéger l'enfant. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que lorsqu'il y a un départ... quel que soit Corse-continent ou continent-Corse, il y a un chamboulement, il y a une nouvelle organisation parentale, une nouvelle configuration parentale. Ce n'est pas évident de l'accepter pour le parent qui reste aussi. Sans vouloir offenser Dominique, hein, bien évidemment. C'est douloureux aussi pour celui qui reste. Celui qui part va partir avec l'enfant pour X raisons, parce qu'il y a un rapprochement familial, il y a un emploi, il y a des tas de choses. Il peut y avoir aussi un éloignement, on n'en peut plus, hein, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Et effectivement, l'enfant est présent, hein, l'enfant est très présent dans le discours, il est là. Hein, enfin, là, il n'est pas présent en médiation, puisqu'on n'accepte pas d'enfant en médiation, sauf si effectivement... Ça m'est arrivé de demander l'accord des parents pour recevoir les enfants s'il y a... Parce que les enfants aussi n'osent pas dire aux parents certaines choses. Donc, c'est vrai que j'ai reçu des enfants en accord avec les parents, encore une fois. Des enfants entre 9, 10 ans, 11 ans, pour qu'ils puissent... Ils ont pu exprimer... Enfin, je vais laisser la parole à Dominique... Mais c'est une manière aussi de dire, voilà, les enfants ont pu dire aux parents, on ne veut plus ça, on souhaiterait autre chose, et n'osaient pas le dire. Donc ça, c'est important aussi de recevoir les parents. Mais être dans cette bienveillance, moi je le dis toujours aux parents, soyez bienveillants avec vos enfants, parce que votre enfant aujourd'hui, ça sera l'adulte de demain, donnez-lui tout ce qu'il faut. Pour qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent pas se battre, mais qui puisse grandir dans de bonnes conditions.
Voilà. Et oui, parce que c'est la construction de l'enfant, la construction de sa personnalité. Et quand les parents se déchirent, c'est une image qu'il a et qui risque de reproduire. C'est un karma qui risque de reproduire. Donc, évitons tout cela. Et tout ça grâce au dialogue, comme le disait Dominique, qui a fait une très, très bonne analyse de la médiation. C'est tout est question de dialogue.
Et on peut imaginer, puisque Dominique l'évoquait et Annie aussi, on parlait d'ego, on parlait de colère, on parlait de ces tensions. C'est un cycle, ça peut être un cycle infernal. Et effectivement, si je comprends bien, la médiation arrive là pour stopper ce cycle-là et repartir dans un autre, j'ai envie de dire, dans un autre cycle.
La médiation arrive quand il y a une rupture totale de communication. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et ça évite aussi d'aller jusqu'à la violence. Parce que quand on ne communique plus, l'autre n'écoute plus, il est fermé. Qu'est-ce qui nous reste ? Et parfois, certaines personnes franchissent le pas. Avec la médiation, il y a une introspection qui se fait quelque part. On se dit, oui, bon, on peut communiquer. Déjà, on s'exprime dans un espace de dialogue. On peut tout dire. Mais il y a des façons de dire. Voilà, on n'insulte pas, on écoute l'autre, on va jusqu'au, on le laisse cheminer, dire ce qu'il a à dire, et on s'exprime en jeu. C'est pas tu parce que une expression dit le tu. Voilà, donc je prends la responsabilité de ce que je ressens. Tu n'es pas responsable, tu as fait des choses, tu as dit des choses, mais moi j'ai ma responsabilité, j'ai interprété. J'ai ma responsabilité. Et quand on a la responsabilité, on reprend le pouvoir. On n'est plus victime. Et quand on reprend le pouvoir, on peut changer les choses. Je pense que c'est ce qui vous est arrivé, Dominique.
Oui, c'est ça. On arrive dans une grande vulnérabilité et on a besoin d'un cadre. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est d'arriver, et dès le départ, pour n'importe quelle médiation, il y a des règles. Il y a des règles. Et si on veut avancer, tout le monde doit les respecter. Et ça a été rassurant aussi. Et encore une fois, il faut qu'on se dise, l'intérêt, c'est l'enfant. Alors quand nous, on le dit à la personne en face, le parent de notre enfant, il ne peut pas l'entendre. La tierce personne, la boussole, est là justement pour aider à faire ça. Parce que c'est pas des arbitres, comme elles ont dit. On est là pour construire un projet et c'est pas les médiateurs qui vont avoir la réponse. C'est nous, c'est ce que l'on désire pour notre enfant, puisqu'on a fait un enfant en commun et on a forcément, à un moment donné, parlé de l'éducation qu'on voulait transmettre. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à établir un projet.
Et je peux imaginer que... du coup, c'est une remise en question. Tout à l'heure, Dominique, vous avez expliqué que vous aviez commencé par une thérapie. Ouais. Voilà, vous n'avez pas obtenu les résultats que vous escomptiez, hein, si on peut parler de résultats en matière de thérapie. Mais toujours est-il que c'est ce qui a fait que... Enfin, votre thérapeute vous a...
C'est un état des lieux. Voilà. Ça a fait un état, en fait, du couple.
Du couple. Et est-ce que, du coup, grâce aussi... Alors, peut-être un petit peu à cette thérapie-là, mais aussi à la médiation familiale, est-ce que ça ne génère pas une remise en question de soi-même, de son comportement, de
Bien
ses
sûr.
Idées ?
Oui. Bien sûr, je pense qu'on doit passer par là. On doit passer par là pour ne pas répéter, comme on pourrait dire, les schémas, que ça soit avec un futur partenaire, mais surtout avec son enfant. C'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant dans la médiation, c'est qu'on doit apprendre à rétablir un dialogue avec le parent en face, mais des fois pour des parents qui ne savent pas parler, qui ne savent pas exprimer forcément leurs émotions, déjà dans le conflit de couple, mais là, dans les prises de décision. Et le fait de cheminer, ça peut amener à se dire « Mais oui, j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'exprimer ce que j'ai envie. » Et pour plus tard aussi, en fait, avec le dialogue avec l'enfant, puisque, bon, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de parents qui sont séparés. Ça devient très commun, on va dire. Mais il faut aussi apprendre à avoir un dialogue, une discussion avec son enfant sur ce sujet. On ne peut pas le cacher puisque la séparation, elle est là, c'est fait. Et à un moment donné, l'enfant va poser quand même des questions. Donc, c'est essayer, voilà, avec le plus de bienveillance possible, lui apporter des réponses. Et la construction de l'enfant est plus qu'importante. C'est sa construction mentale, même pour communiquer lui avec les autres, que ce soit avec son professeur, à l'école, parce qu'il va forcément dans la vie rencontrer des conflits et il va avoir besoin de s'outiller. Et nous, on est des adultes et on est censé donner les outils. Donc il faut d'abord se donner les outils à nous-mêmes pour pouvoir les donner ensuite à son enfant.
Vous êtes sur Frequenza Nostra 99 FM. Il est question de médiation familiale. Nous venons d'entendre Dominique. Dominique qui nous merci d'ailleurs, qui nous fait part de son parcours et du parcours qu'il a mené à faire appel à la médiation familiale. Pour en parler de cette médiation, Annie Hernandez, qui est à l'origine de cette émission, de ce projet. Si vous qui nous écoutez, vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, que ce soit maintenant ou même après l'émission. Vous les envoyez sur le portable professionnel, bien sûr, d'Annie Hernandez, 06 87 61 52 67. Je le répète, 06 87 61 52 67. N'hésitez pas à poser vos questions. Avec nous aussi pour parler de cette médiation, nous avons Francine Casanova, avocate et médiatrice familiale. Moi, j'ai une question à l'avocate par rapport à ce que disait Annie tout à l'heure. Elle expliquait que la médiation n'est pas une obligation. C'est-à-dire, alors là, on a pris l'exemple du parent par rapport à l'enfant, de la relation de couple, mais ça peut être aussi la fratrie, hein, l'exemple que je citais tout à l'heure, hein, avec le parent dont on ne sait plus trop quoi faire et on n'est pas d'accord sur son avenir. Vraisemblablement, quand une personne, si j'ai bien compris, Annie, si jamais vous m'arrêtez, quand une personne fait appel à une médiation familiale, l'autre partie, entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler de partie, l'autre partie n'est pas obligée légalement de répondre et à cette médiation, c'est bien ça ?
Obligé, légalement ou pas, n'est elle, pas obligé.
Elle est volontaire.
Qu'est-ce qui se passe dans le cas où, par exemple, donc on va prendre l'exemple du cas de Dominique, si vous permettez. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais un parent, on va dire la maman, fait appel à une médiation familiale. Donc le papa est invité. Mais le papa refuse.
Alors, il faut savoir que maintenant, en matière de médiation, vous avez quand même un préalable obligatoire devant le juge aux affaires familiales. Voilà, pas pour les divorces, mais tout ce qui concerne l'après-divorce, pour les droits de garde, de visite, d'hébergement, voilà. Quand vous saisissez le magistrat maintenant fait une tentative de médiation préalable obligatoire. Il fait une injonction aux parties d'aller voir un médiateur. C'est organisé actuellement au palais de justice d'Ajaccio. C'est tous les lundis. Et là, un médiateur les reçoit et leur fait l'information de la médiation, leur expliquant le rôle de la médiation, qu'est-ce que ça peut leur apporter, le côté volontaire, le côté sécurisé et tout ça. Et après, les parties, elles sont informées. Elles font ce qu'elles veulent. Soit elles poursuivent, soit elles se disent non, on préfère continuer, décider que ce soit le juge qui prenne la décision à notre place. Voilà. C'est un choix, c'est une liberté.
Ça, c'est dans le cas où il y a eu, en l'occurrence, mariage officiel ?
Non, simplement, vous êtes avec une personne, vous avez un enfant, et voilà, c'est ce qu'on appelle les audiences après divorce, en fait. Mais ce n'est pas forcément divorce.
Vous avez bien
raison de le reprendre. Voilà.
Donc, du coup, si encore une fois, l'autre partie ne veut pas, s'il y a une des parties qui veut, mais l'autre ne veut pas faire appel à la médiation familiale, il n'y a pas de médiation.
Il n'y aura pas de médiation possible. Par contre, quand il y a l'injonction, la personne a l'obligation d'y aller. Parce que si elle n'y va pas, le juge en tirera les conséquences et dira « Ok, cette personne n'a peut-être pas les qualités requises pour éduquer un enfant. » Voilà.
Oui.
Oui, Nani.
Préciser que ce sont des réunions d'information à la médiation familiale. Oui. Après, nous leur donnons, effectivement, parce que j'en fais partie également, nous leur donnons un tableau où il y a le nombre de médiateurs, avocats, médiateurs, leurs coordonnées téléphoniques. Aux gens de faire ce choix-là d'entrer ou d'entamer un processus de médiation familiale.
Alors, je vous propose, mesdames, de faire juste une petite pause musicale. On revient après parce qu'on a encore plein de choses à dire et il y a sûrement des questions aussi, alors que nos auditeurs et auditrices se posent et n'osent pas peut-être nous contacter pour l'instant. Ils sont peut-être en voiture aussi. On sait que la radio est souvent écoutée pendant qu'on est en voiture, donc on n'a peut-être pas le temps. Mais encore une fois, et je le redirai après la pause musicale, encore une fois, vos questions pourront arriver après, que ce soit si elles arrivent sur les réseaux sociaux de Frequenza Nostra, eh bien nous les ferons suivre, Annie. Et puis sinon, sur le portable professionnel dont je vous ai donné le numéro, je le rappelle à l'instant, 06 87 61 52 67. Mais de toute façon, on le communiquera à plusieurs reprises. Allez, on fait juste une petite pause musicale, une minute, pas plus. Et puis, on revient de suite après. Sur Frequenza Nostra 99 FM. Nous sommes en compagnie d'Annie Hernandez, qui est médiatrice familiale au sein de la FALEP. Avec elle aujourd'hui, pour nous parler de la médiation familiale, mieux pour nous présenter la médiation familiale, Francine Casanova, avocate et médiatrice familiale, et Dominique qui nous a fait part de son parcours qui l'a mené justement jusqu'à... Alors, pas du parcours qui l'a mené, mais en tout cas... les raisons qui l'ont mené à la médiation familiale et comment Dominique donc a vécu cette médiation familiale. Vous avez parlé de boussole, Dominique. Je crois qu'Annie, c'est quelque chose qui vous a bien plu, le terme. Et du coup, c'est vrai que ça parle. Alors, je voudrais profiter de cette émission pour informer nos auditeurs, auditrices, qui a un numéro. Voilà, c'est un numéro de portable. C'est le numéro de portable d'Annie que vous pouvez joindre. Je vais vous le redonner. C'est le 06 87 61 52 67 06 87 61 52 67. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, que ce soit pendant l'émission ou après. Vous rappelez aussi que cette émission, quoi qu'il en soit, elle sera podcastée, donc elle va être disponible déjà en live, puisque, enfin, elle sera plus en live du coup, mais sur le groupe, le tout nouveau groupe Facebook Radio Frequenza Nostra Live. Vous le savez, nous avons été piratés au niveau de notre page Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ce groupe-là, vous verrez la vidéo. Et puis sinon, de toute façon, l'émission sera podcastée sur le site web, sur nos plateformes, Ocha, Spotify et tutti quanti. Voilà, la médiation familiale. On voit que c'est pas simple, on voit que... Moi, j'avais l'impression, en fait, j'avais dans l'idée de la médiation familiale et je vous ai posé la question et Annie, vous m'avez vraiment dit non, ce n'est pas ça, que le médiateur ou la médiatrice intervenait... Voilà, en disant, alors oui, moi je vous conseille plutôt de faire ci, ou je vous conseille d'aborder les choses comme ça, mais alors pas du tout. Et alors, du coup, vous n'avez pas ressenti ça du tout, Dominique ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été avancé dans une tempête des éclaircissements et la construction d'un projet autour de l'enfant. Mais chaque couple est différent, chaque éducation est différente. Donc, à ce couple parental, puisqu'au final, on reste quand même un couple parental, même si on n'est plus un couple amoureux, et construire le futur de notre enfant.
C'est ça, vous êtes... à la limite, il n'y a plus le couple, mais il y a les parents.
Oui.
C'est ça. Alors, est-ce que c'est deux professions, là je m'adresse à vous, Francine Casanova, avocate et médiatrice familiale, c'est deux professions complémentaires, c'est... Il faut faire l'un pour passer par l'autre, ça n'a rien à voir. Oula, Annie a fait des grands signes. Non,
non, ça n'a rien à voir, nous ne sommes pas schizophrènes. Nous sommes soit avocats, soit médiatrices. Nous, c'est parce qu'avocat, on est là pour défendre le client. Médiateur, on est là pour les aider à trouver, à cheminer. Comme on l'a dit, on n'est pas juge, on n'est pas expert, on n'est pas... Voilà, on est juste là pour les aider à cheminer. Et ça a été difficile comme, pour faire ce choix, mais pourquoi j'ai fait un choix pareil ? Peut-être que ça peut éclairer certaines personnes. Tout simplement parce que quand des décisions étaient prises, je m'apercevais que malgré tout, quand le juge prenait des décisions, et même s'il était en faveur du client, je me suis aperçue que malgré tout, les clients n'étaient pas satisfaits. Et je me disais, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils partaient aussi malheureux qu'avant. Et en fait... Tout simplement parce que j'ai pris conscience que quand il y a un différend, c'est comme un iceberg. Vous avez la partie visible qui est en fait le litige, qui peut relever du juge, d'un homme de loi, qui peut trancher le différend. Mais c'est pas le plus important, c'est simplement le visible. En dessous, vous avez ce que moi j'appelle le conflit, qui est chargé d'émotions. Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi il y a rupture de la communication ? Et tout ça, c'est pas traité avec le juge. Tandis qu'avec la médiation, on prend tout et on traite au fond du problème, c'est-à-dire on traite le conflit. Et c'est pour ça qu'on trouve des solutions. Alors, sans hésiter, j'ai profité des formations de médiation pour pouvoir justement apprendre cette technique, parce que c'est des techniques de communication. Il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de enfin, pas de, on n'est pas thérapeute, mais on apprend quand même certaines thérapies, comme la dernière thérapie ACT, vous voyez, des trucs comme ça, pour aider les médias à mieux cheminer.
Oui, parce que de toute façon, l'humain, la personne, est faite d'un même schéma, même si chacun a son cerveau, chacun a son passif, son passé. Effectivement, la personne humaine a un schéma... je ne sais pas, on peut dire peut-être psychologique. Donc, en fait, il faut connaître un peu le schéma humain pour pouvoir avancer, permettre aux personnes d'avancer.
Et oui, parce que nous sommes tous conditionnés. Nous sommes conditionnés par notre culture, par notre religion, par l'école. Nous sommes tous, en quelque sorte, formatés. Et on voit le monde à travers notre prisme, c'est-à-dire à fonction de tout ce qu'on nous a inculqué. Et c'est là que ça ne peut pas fonctionner, parce que quand on est un couple, on n'est pas un et l'autre, on est un plus un, voilà, et ça fait trois en fait, parce qu'il y a moi, je suis là pour apporter quelque chose, il y a l'autre qui est là aussi pour retirer quelque chose du couple, et il y a la relation, et parfois, à travers nos prismes, la relation, eh ben, c'est pas comme ça qu'on la voyait, on l'imaginait.
Et puis, on a chacun son propre prisme, donc on n'a pas le même prisme que l'autre en face.
Non, absolument pas.
Pardon, allez-y.
Oui, je rejoins un petit peu Francine lorsqu'elle dit qu'effectivement, moi, pour avoir assisté à des audiences lorsque j'étais en formation à la médiation familiale auprès du juge aux affaires familiales, il n'a pas le temps. C'est le temps qui est important pour les personnes qui viennent en médiation. Elles prennent le temps. Et d'une rencontre à l'autre, il se passe 15 jours. C'est-à-dire que j'invite les personnes à venir pour la deuxième rencontre 15 jours après. Parce que ce temps-là, c'est un temps de réflexion. C'est un temps où là, les parents vont réfléchir, vont peut-être s'appeler et se mettre d'accord. Et revenir en se disant, ben voilà, nous nous sommes entendus. Et ça, c'est important. C'est ce temps-là qui est important. Et en procédure, il n'y a pas le temps. Parce que le juge traite en une matinée, voire un petit peu au-delà, 30-40 dossiers. C'est énorme. En une matinée, c'est énorme.
Il n'y a pas le temps, et excuse-moi, mais il n'y a pas aussi, la communication n'est pas rétablie, puisqu'on parle à travers les avocats.
Et il y a effectivement ce temps-là, pour en revenir au temps, le temps, comme disait Françoise Dolto, le temps est notre allié. Il est important, justement, d'avoir ce temps-là, de réfléchir, d'amener, de faire des propositions et pour l'enfant. Effectivement, et en procédure et en audience, c'est pas possible. Les gens, il y a une insatisfaction. Moi, les gens viennent, des gens qui ont divorcé depuis des années, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a toujours cette tension. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour quelle raison il y a cette tension ? Donc, à un moment donné, ils sollicitent la médiation, et là, ils peuvent se parler. Et là, ils vont prendre le temps. Et ce qui est important, c'est de comprendre les raisons, l'objet du conflit. Qu'est-ce qui fait conflit ? Voilà.
Dominique voulait réagir, justement.
Oui, justement, je trouvais ça très pertinent. Quand je suis arrivée en médiation, on n'a pas du tout, on ne connaît rien à l'aspect juridique quand on n'a pas eu affaire à des tribunaux pour quelque raison que ce soit. Et ça nous fait peur en même temps. Et le fait de parler de médiation, ça nous permet aussi de prendre conscience que si on entame une démarche juridique pour la garde de notre enfant, dans un premier temps, c'est très lourd, c'est long, ça peut être coûteux financièrement. Mais l'aspect qu'on oublie aussi, c'est coûteux émotionnellement. Et ça peut laisser des marques. Et comme elle disait, des années après, les parents n'arrivent pas à trouver de dialogue encore. Alors que quand on va en médiation, on peut déposer une parole.
Et puis, ça doit même rajouter, c'est-à-dire que les tensions s'accumulent lors d'un procès, d'une procédure.
C'est terrible pour la personne qui reçoit la requête. C'est terrible. C'est d'une violence, on ne se rend pas compte, mais c'est d'une violence.
Et puis l'avocat n'est pas justement, en tout cas, ni le juge finalement, n'est pas le médiateur. Là, ils sont là pour défendre, accuser et juger, ce qui n'est pas du tout, et ça je l'ai bien entendu, Annie, du tout le rôle du médiateur familial.
Non, le médiateur ne juge pas, il ne prend pas parti, il est neutre, impartial. Voilà. Et même si ça le touche parfois, si l'histoire de la personne, du médié, fait écho à sa propre histoire, il se doit de faire comme un écran. Non, ce n'est, voilà, avoir le recul, quitte à prendre un petit moment de réflexion, dire écoutez, j'ai besoin de faire le point. Et c'est pour ça que c'est très important d'être souvent en co-médiation. Voilà, parce que là, quand un médiateur se sent submergé par sa propre émotion, parce qu'on n'est pas des robots non plus, hein, dans ce cas-là, l'autre médiateur à côté prend la relève et avance pour permettre aux gens de continuer dans leur raisonnement.
Dans le cas de Dominique, c'était une visio en binôme avec le médiateur et le père de l'enfant de Dominique et de ce monsieur, en binôme. En fait, j'aimerais dire que, quel que soit... les moyens utilisés en médiation, ça fonctionne. Aujourd'hui, on est beaucoup en visio. Les gens me demandent aussi de la visio. Là, dernièrement, j'ai effectué une médiation. Les gens ont préféré ne pas se voir. Se voir derrière un écran, ça posait aucun problème. Donc, c'était deux personnes qui habitent dans le coin. Ça semble bizarre. Et ça fonctionne aussi. Là, mais ils ont pu trouver des accords, ils se sont entendus, mais ils se sont parlé. Et ça, c'est important. Même si la médiation n'a pas, comment dirais-je, abouti ou il n'y a pas d'accord, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'ils puissent se parler. Et après, à un moment donné, ça chemine, ça peut s'apaiser. Voilà, ça va cheminer. Et c'est ça qui est important, c'est la médiation... C'est un espace où on peut se parler, on peut se dire et on peut dire des choses. Par rapport à la communication, bien sûr, ils ont le droit de dire de ne pas être d'accord. même d'exprimer leur colère, bien évidemment. Moi, j'ai un cadre à poser pour leur sécurité. C'est vrai, et la mienne aussi.
Oui, j'allais y venir, justement.
Oui, lorsque tout est dit, lorsqu'on pose le cadre, moi, je n'ai jamais eu de problème de violence physique, hein, bien sûr. Il y a eu des insultes qui ont fusé, qui sont parties comme ça. Oh, je ne maîtrise pas, on ne peut pas, je ne peux pas anticiper les... Mais c'est rare, ça reste rare, parce qu'il y a une ambiance dans cet espace de médiation qui fait qu'on pose effectivement, j'allais dire, de la bienveillance, de l'empathie aussi avec les gens. Hein. On n'est pas dans le jugement. Et tout ça, ça s'apaise. On n'a pas de baguette magique. Hein. Mais de par ce discours, de par cette ambiance, les gens, bah, tout doucement, vont prendre conscience qu'effectivement, il y a un intérêt. L'intérêt, comme dit la justice, Francine ne me contredira pas, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Au niveau de la justice, on emploie ce terme-là. Moi, je dis de la bienveillance, parce que c'est notre enfant. Cet enfant-là, on doit le protéger, on doit le préserver, on doit être ensemble. Et ensemble, c'est ce que moi j'appelle la coparentalité. C'est être parent ensemble. Et tout le deal, toute la difficulté, c'est comment être parent ensemble quand on est séparés. Et ça, c'est compliqué. Parce que, eh ben, on a chacun, effectivement, un mode d'éducation différent. Lorsqu'on est ensemble, on met en place un consensus, on s'entend, parce qu'on vit sous le même toit. Mais lorsqu'il y a éclatement de la cellule familiale, c'est compliqué. Et là, effectivement, hein, moi, je dis, souvent, il y a des désaccords. Moi, je fais un truc tout simple. Je prends mon téléphone, je le pose sur la table et je dis « Monsieur, vous pouvez me décrire le téléphone ?» Il va me décrire le téléphone. « Madame, vous pouvez me décrire le téléphone ?» Donc finalement, ils vont le décrire de manière différente. J'ai dit « Mais ce qui est important, c'est que je veux leur dire que la différence, elle existe et que c'est pas...
Comment expliquer ? C'est la perception, en fait, oui, qui est différente.
C'est des points de vue.
Ce sont des points de vue différents. Merci, Francine. Vous savez, vous avez l'image de la vieille et de la jeune dans une même photo. On va dire, est-ce que tu vois cette jeune femme ? Oui. Est-ce que tu vois cette dame âgée ? Aussi. Donc, c'est comme le 6 et le 9. Tout dépend comment on va regarder le... Si je mets le chiffre sur la table, Dominique va voir le 9 et moi, je vais voir le 6. C'est des points de vue différents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre.
Et là, en l'occurrence, vous citiez, Annie, cet exemple du téléphone. En l'occurrence, le téléphone, il est là. Quoi qu'il en soit, le téléphone, il est là. Quelle que soit la perception qu'on peut avoir du téléphone, ou la façon en tout cas dont on va le décrire, le téléphone, il est là, il est posé sur la table. Ça, c'est une chose. Oui. Donc, l'exemple est... Mais il y a cette petite chose, même qui a grandement son importance... C'est quand même un métier où on prend de l'émotion, quoi, en charge en émotion. Comment on arrive à prendre le recul ? Alors j'imagine que chacun, chacune a ses façons de faire et a encore une fois sa personnalité qui va faire que, mais c'est quand même
en ce qui me concerne, j'ai tous les deux mois, j'ai de l'analyse de la pratique professionnelle avec des confrères et des consoeurs du continent où on parle effectivement. On parle des problèmes que l'on rencontre, des difficultés aussi, parce que j'ai envie de dire, enfin c'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai envie de le dire parce que c'est très juste. C'est ce que disait Bettelheim, c'est que
ça reviendra sinon de toute façon.
Non, mais la perfection est en contradiction avec toutes nos imperfections humaines. On sait comment a fini Bettelheim.
Rappelez pour les auditeurs qui ne savent pas.
Il est tout fait dans un sac plastique.
Ah ben c'est gai, ça. ça remonte le moral.
On parlait de chargé. Voilà, on parlait de chargé
émotionnel.
C'est important. Il y a des émotions, bien sûr, il y a des émotions qui nous traversent. Mais on n'est pas, comme dit Francine, on n'est pas des robots. Mais ce qui est important, c'est C'est dans notre jargon, on est en alpha bêta, c'est-à-dire on est à la fois dedans avec les gens et à la fois à l'extérieur pour pouvoir analyser ce qui vient d'être dit.
C'est l'empathie.
Et on est toujours dans la reformulation. Et si j'ai bien compris, etc., pour effectivement que nous, enfin, je me mets avec les parents, qu'on ait bien compris ce qui vient d'être dit.
En fait, on essaye de trouver l'émotion et à travers l'émotion, le besoin de la personne. Donc, c'est pour ça qu'on est avec eux et en dehors. Et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est prenant. Et c'est la raison pour laquelle il faut quand même faire un travail sur soi par l'introspection pour pouvoir évacuer ses propres problèmes, ses propres traumas, parce qu'on en a tous, hein, il ne faut pas croire. Hein.
On a tous nos casseroles, comme on dit.
Voilà, personne n'est épargné. Et tous les jours, vous avez quelque chose qui remonte. Et quand ça remonte, il faut le traiter tout de suite. Voilà, comme ça, on n'en parle plus et on passe à autre chose.
Dominique, pardon.
Oui, j'aimerais poser une question à Dominique.
Alors, d'abord, Dominique, vous vouliez réagir par rapport à ça.
C'est ce que j'avais remarqué, le fait d'être avec un tiers. Il y a une retraduction de ce qu'on peut dire, nous, pour permettre à la personne en face de mieux le comprendre ou mieux le saisir, puisqu'on n'a pas eu les mots au bon moment ou les mots sur les mots pour traduire tout ça.
Annie ?
Oui, moi j'aimerais vous poser une question, Dominique. Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, comment ça va ?
Voilà, comment allez-vous ? Comment ça se passe ?
Ça va, justement, il y a eu un cheminement pour notre enfant et après il y a eu ce cheminement aussi personnel puisqu'on est dans un moment très vulnérable. On est, pour ma part, une maman, mais à un moment donné, on a besoin de retrouver aussi notre part de femme et il y a quand même eu de la souffrance après cette histoire qui fait partie de la vie. Et il n'y a pas un moment où je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais laissé ça apparaître. J'avais de la tristesse au fond, j'avais de la colère, j'avais beaucoup de sentiments. Mais peut-être parce que moi aussi, j'ai été une enfant de parents divorcés. J'ai eu des ressentis d'enfants très forts qui ont fait que très vite, j'avais saisi que je voulais protéger ma fille sans me mettre de côté, mais de faire attention. Mais même naturellement, en fait, ça s'est fait naturellement. Cet enfant est là, il a envie de grandir, il a envie de mordre la vie à pleines dents. Et en fait, c'était une dose de bonheur de l'accompagner encore aujourd'hui. Et aussi, peut-être aussi la médiation a installé le dialogue avec le papa en face. Il n'y a pas eu un moment où il y a un passage de bras qui s'est mal passé. À chaque fois, j'étais très contente qu'elle y aille parce qu'elle savait qu'elle allait passer du temps avec lui. Lui était content de la recevoir. Et moi, en tant que femme, ça me permettait de faire aussi une pause dans ce rôle de maman et de prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, je vois bien, j'ai des amis, je fréquente des mamans solo. Je vois bien qu'on n'est pas du tout toutes à la même enseigne. Et entre guillemets, moi, j'ai la chance d'avoir cette pause. Donc, et ma fille, enfin, mon enfant part. Et quand elle revient, elle est aussi aux anges. Et elle a adopté ce rythme. Elle sait. Donc elle sait qu'elle est là, et puis que pendant les vacances, elle repart, et après elle revient. Les enfants, ils s'adaptent. C'est ça la force, je vais dire, des enfants, c'est de s'adapter. Et ce qui est important, c'est aussi de toujours avoir un dialogue avec le parent en face, même si c'est difficile de l'avoir en face à face, on peut le faire par téléphone. C'est aussi la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des téléphones portables.
Alors c'est vrai, et Annie le soulignait par rapport aussi aux interventions en médiation familiale, c'est la visio. Et on peut effectivement tout à fait, parce que d'abord on se dit ouais, c'est peut-être aussi la solution de facilité, mais c'est peut-être aussi justement une solution pour faciliter le dialogue quand Exactement. On a vraiment plus envie de se voir.
Parce que parfois c'est pas que se voir, c'est être à côté, le sentir proche, tout devient
épidermique.
C'est un retour en arrière qui peut être douloureux, oui. Parce qu'il y a des émotions qui vont émerger. Il y a une histoire qui est passée, mais qui est toujours présente. Et donc, effectivement, en médiation, le paradoxe de la médiation, c'est... moi, je le vois comme ça. C'est à la fois... On demande aux parents d'être présents et de se parler et de se dire ce qui ne va pas. Et eux, ont décidé de se séparer, de plus se voir. Et le paradoxe de la médiation, c'est qu'on les met face à face, finalement. C'est un peu paradoxal, mais et je comprends que les gens acceptent la vision, mais pas venir quoi, en présentiel, physiquement. C'est douloureux pour eux.
C'est douloureux parce que souvent, dans leur tête, ils n'ont pas pris conscience qu'il y avait la rupture du lien amoureux entre eux et qu'il restait quand même un couple parental. Et ça, c'est un couple parental à vie. Mmh. Et tant qu'ils font la confusion entre les deux, il y a des tiraillements. Mais à partir du moment où c'est bien clair, la relation, elle est terminée, elle a été ce qu'elle a été, elle a été belle, elle s'est finie malheureusement, mais c'est la vie, c'est le cycle. Mais nous sommes quand même un couple parental. Et ça, il faut pouvoir assumer parce que c'est une lourde responsabilité que d'éduquer un enfant.
C'est ça, c'est notre devoir. C'est vraiment notre devoir d'élever l'enfant.
Et si je peux me permettre, d'élever au sens noble du terme, hein, de l'élever dans ce monde-là, c'est pas juste de lui apprendre aller à marcher, à compter, etc. C'est de l'élever même spirituellement, enfin en tout cas de l'élever psychiquement, et pour qu'il ait la meilleure vie possible. Et puis je me permets justement d'ajouter une petite chose, faut pas oublier que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, hein, donc c'est eux qui vont former la société de demain. Donc on a besoin d'enfants, la société et le monde a besoin d'enfants qui aient une jolie enfance pour être des adultes aussi responsables, on parlait de responsabilité, puis stable aussi pour faire que notre société et notre monde il aille un peu mieux aussi, hein. N'est-ce pas ?
Tout à fait. Tout à fait.
On pourrait dire beaucoup de choses. Annie, vous vouliez réagir ?
Oui, moi je pensais à la violence, hein. Il y a une montée de la violence aujourd'hui de mineurs envers d'autres mineurs ou de jeunes majeurs. C'est catastrophique. Hein. On ne va pas parler de ça, mais on peut se poser des tas de questions aussi par rapport à ça.
Alors,
parce qu'il y a souvent les gens qui disent « Oui, et que font les parents ?» Mais à un moment donné, si on analyse la situation, on se rend compte que c'est difficile aussi pour ces parents. Moi, je ne suis pas dans le jugement. J'essaye de comprendre, effectivement. Après, aujourd'hui, j'écoutais, il y a une mesure qui va être prise par le gouvernement, c'est-à-dire par rapport à ces jeunes. Ils vont intégrer un internat. J'ai vu les infos tout à l'heure, là, pour sortir les... C'est, pourquoi pas sortir ces jeunes violents de leur milieu, de leur fréquentation. Oui, moi, je suis d'accord, mais après... réfléchir de quelle manière. Mais j'ai une question à poser à Dominique. Ça, c'était une petite parenthèse de ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous conseillerez aujourd'hui la médiation familiale ? Et pour quelles raisons ? Enfin, si c'est... Oui, je ne sais pas. Et les raisons ?
Oui.
Si vous avez... voilà.
Oui, bah, en fait, le sujet ne se pose même pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on a la possibilité, si on veut, on a la volonté de passer par une médiation, c'est bien évidemment le mieux à faire avant de s'engager dans une procédure juridique, que je disais tout à l'heure, qui peut être longue, coûteuse financièrement, mais aussi émotionnellement. Quand on est avec un avocat ou un juge, voilà, ça peut être long pour avoir une date, pour passer devant le juge des affaires familiales. Mais au-delà de ça, ils ne sont pas là pour entendre notre affect, on va dire. On ne peut pas déposer ça auprès d'un avocat ou un juge. Alors que la médiation, justement, il y a une traduction de cet affect qui nous concerne, nous, et bien évidemment l'enfant, puisque c'est l'objectif. Mais comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, il existe des médiations spontanées ou ordonnées. Je pense que si aujourd'hui elles sont ordonnées, c'est qu'il y a un intérêt. Et je pense que c'est important que chaque parent, enfin les couples, aient l'intelligence de se dire « Allez, on y va et encore une fois, on met notre frustration, on met notre ego, on met notre histoire de côté parce que c'est pour notre enfant. » Et après ça, je pense que tout le monde peut retrouver plus de paix en soi et après, pour les parents et l'enfant surtout. Et en fait, je pense, au-delà, encore une fois, c'est notre rôle de parent, c'est de montrer l'exemple. de montrer l'exemple à nos enfants. Donc si on montre l'exemple qu'on arrive à établir un dialogue, ils le feront plus tard aussi.
Et ils chercheront les solutions, s'ils voient qu'ils ont des difficultés, ils chercheront les solutions, justement, voilà. Comme les parents l'ont fait.
De rebondir en permanence, c'est une bonne éducation, ça, oui.
Moi, j'ai envie de dire que quand le conflit s'installe, la rigidité perdure.
Donc, ne pas laisser s'installer le conflit, vraiment... Alors, il peut s'installer, mais surtout, à un moment donné, réussir à le rompre.
Parce que la médiation vient en dernier recours aussi. C'est dommage. Bon, maintenant, plus trop. Mais parce que j'ai toujours questionné les parents. Et les parents me disaient, mais c'est l'ultime solution. On est allé là, on est allé même voir la conseillère familiale et conjugale, on est allé voir un thérapeute, on a fait une psychothérapie familiale, vous voyez. C'est pour ça...
On essaye.
C'est à l'époque, moi, je percevais la médiation, enfin, ce qu'en disaient les gens, mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Aujourd'hui, il y a aussi l'aspect financier. Je peux vous dire qu'une médiation, effectivement, moi je travaille dans une association où on a un barème CNAF de la Caisse nationale des affaires familiales. Ça va de 2 euros à 131 euros maximum. Effectivement, les avocats médiateurs sont des personnes qui travaillent en libéral. C'est pas le même tarif ou un médiateur qui travaille en libéral. Moi, on m'impose un tarif qui est plus que correct. Voilà, il y a l'aspect financier. Certaines personnes préfèrent ne pas entamer de procédure judiciaire et devenir en médiation. C'est un choix.
Mais en tout cas, c'est une solution. Voilà. Alors, c'est bien aussi d'évoquer ça, c'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, même si c'est un coût moindre, ça a quand même un coût, la médiation familiale. C'est pas entièrement gratuit, c'est ça ?
C'est pas gratuit. Les entretiens individuels, oui, au départ, parce que souvent, lorsqu'il y a une personne, le demandeur, il faut que je contacte l'intéressé. C'est comme dans un divorce, il y a le demandeur et l'intéressé. Le parent qui sollicite la médiation, ou soit charge à moi de contacter, soit par mail ou envoyer un courrier. Je ne téléphone jamais parce que ça peut être intrusif. Si effectivement la personne me contacte, sollicite la médiation et n'en a pas parlé à l'autre parent, c'est délicat, vous comprenez. Donc voilà. Moi, je m'organise de cette manière.
L'information à la médiation donnée par le magistrat est également gratuite.
C'est important aussi de souligner ces aspects-là.
Oui, bien sûr.
Voilà, on aura l'occasion, justement, de parler de cette médiation familiale. C'était une première, c'était l'occasion de présenter ce qu'est la médiation familiale. Vous qui nous écoutez derrière votre poste à galène, depuis votre voiture, derrière votre smartphone aussi, puisque nous sommes audibles aussi via le stream de Frequenza Nostra, ou via le tout nouveau groupe Facebook, qu'on espère bientôt laisser pour récupérer notre ancienne page. Voilà, il était question de médiation familiale. Alors, je redonne le numéro de téléphone d'Annie. Annie Hernandez, je vous le rappelle, est médiatrice familiale au sein de la FALEP. Si vous voulez donc la joindre, 06 87 61 52 67, je répète, 06 87 61 52 67. Si vous êtes derrière votre voiture, surtout, vous ne lâchez pas le volant pour noter le numéro. Vous attendez de rentrer à la maison. D'ici, allez, un jour, deux jours maximum, le podcast de cette émission sera disponible et sur le site web de Frequenza Nostra et sur les plateformes d'écoute, notamment Ocha et Spotify. Vous pouvez y retrouver le numéro de téléphone. Vous pourrez y retrouver le numéro de téléphone. Dominique, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être ?
Oui, tout à fait. Je voulais remercier Madame Hernandez de m'avoir reçue dans une situation, comme je disais, bien vulnérable. Et pour sa gentillesse, pour sa patience et sa bienveillance dans une situation bien particulière.
Oui, et merci ben justement aussi d'avoir eu l'idée eh bien, de chercher des moyens de communication pour communiquer sur cette médiation familiale et de nous avoir proposé cette rencontre. Merci Francine Casanova pour tous ces éclaircissements. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Nos micros vous sont ouverts aussi, avec plaisir. On se retrouve vraisemblablement le mois prochain ou un peu plus tard, on verra, au mois de juin, on avait dit, peut-être, oui, Annie.
Alors, nous avons une page sur Facebook.
Aussi.
Alors, c'est Médiation 2A, M majuscule, et 2 et A en majuscule également.
Voilà. Hein, allez-y, justement, si vous êtes sur les réseaux sociaux, allez sur cette page, vous aurez des questions et vous pourrez, j'imagine, les poser sur la page et puis vous vous rendrez compte de ce qui se passe et de ce qui se fait. Voilà, la médiation familiale pour aujourd'hui, en tout cas, c'est terminé sur ce plateau-là. J'espère que vous avez passé un moment qui, en tout cas, instructif, agréable aussi, puisque nous étions en charmante compagnie. Merci à Dominique de son témoignage. Merci à vous tous et toutes. On se retrouve, nous, au cours de la journée ou demain, ou on verra, vous le savez, on verra là où le vent nous mène. En tout cas, merci.
Merci.
Et à très vite.